Nous allons lire dans Luc chapitre 23 au verset 34. Luc 23, 33, 34. Luc 23, 33, 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà notre thème d'aujourd'hui. Dieu nous invite à pardonner. Et Jésus nous enseigne par son propre exemple. Lorsqu'on l'a mené pour être crucifié, il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'où m'est venue cette inspiration? Il y a 3 semaines, une de nos sœurs, c'est une sœur qui aime aider les nécessiteux, les gens en difficulté, les gens qui manquent de nourriture. Et je crois que dans ce cadre-là, elle avait même laissé son numéro, passé son numéro de téléphone à une personne qui vient de temps à autre parmi nous. Et puis, on était le dimanche, je reçois un coup de fil de la sœur qui me dit, « Mais, pasteur, il y a telle personne qui veut te voir après le culte, si tu peux passer la visiter dans sa résidence, dans les résidences spécialisées. » Je dis, « Bon, il n'y a pas de problème, donc après le culte, j'irai. » Après 45 minutes, un autre coup de fil. Mais pasteur, elle souhaiterait que tu passes avec 4 personnes là-bas. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer de trouver 4 personnes pour passer. Parce qu'elle a besoin que ses poubelles soient dégagées. On dit, bon, d'accord. On revient là, j'étais à Bernay, on revient par ici. Je me suis dit, bon, dans plus ou moins 2 heures après les répétitions, j'essaierai de partir. Et puis je vois notre sœur qui a l'habitude d'être calme, joyeuse. Je la vois un peu fébrile, irritée, qui vient me voir. Mais pasteur, là, il y a un problème. Là, je ne comprends pas comment. Là, maintenant, elle m'a appelé encore. Elle veut que tu amènes des draps neufs là-bas. Moi, je dis, mais les draps neufs, on va les trouver où le dimanche? Et puis, 15 minutes, 20 minutes après, non, mais elle veut aussi que tu amènes des habits de taille 40. Alors, notre sœur qui a l'habitude d'aider, qui est toujours contente, qui voilà, là où beaucoup de chrétiens jettent l'éponge, elle veut toujours continuer à aider, à faire des choses. Elle était déstabilisée, un peu irritée. Ah mais pasteur, mais là, c'est comme si elle nous prenait pour Emmaüs quand même. J'ai dit, bon, d'accord, calme-toi, j'irai voir la situation tout à l'heure. Donc, j'ai pris 2 combattants, on est parti dans la résidence spécialisée. Je sonne, la gardienne vient ouvrir. Je dis, mais nous voulons voir telle personne. Mais telle personne, elle n'est pas là. Mais si elle nous a appelé, elle veut de la visite, c'est pourquoi nous sommes venus la visiter. Non, elle est à l'hôpital psychiatrique. On dit, mais non, puisqu'elle nous a appelé, elle a dit qu'elle est à la maison. Elle a dit, non, elle n'est pas ici. De toute façon, même si elle était ici, ça serait une sorte de fugue, une sorte de fuite de l'hôpital psychiatrique. Nous, dans nos carnets, nous savons qu'elle doit y être, elle doit passer un séjour là-bas. Donc, elle n'est pas ici. Même si elle a fouillé là-bas pour venir ici, donc vous n'avez pas le droit de la visiter. Je me suis dit, bien aimé, après cette courte visite, je me suis dit, mais si notre sœur savait que la personne qui l'appelait de l'hôpital psychiatrique et qui avait peut-être certains problèmes dans la tête, elle ne se serait pas irritée. Si elle s'est irritée, Parce qu'elle a pris ça au premier degré. Quelqu'un qui demande déjà d'abord qu'on la visite, après 4 personnes, après il faut vider les poubelles, après il faut amener les draps neufs, après il faut amener des habits de taille 40. Alors, je me suis dit que ça l'a dépassé parce qu'elle a pris tout ça au sérieux. Mais si elle savait qu'on l'appelait de l'hôpital psychiatrique, elle allait, comme on dit en français, relativiser. Elle a dit, ah bon, je comprends, elle doit avoir certains problèmes. Donc, je crois que son cœur serait en paix. Mais son cœur était troublé parce qu'elle a pris tout au sérieux, tout au premier degré. Je me suis dit, c'est comme ça que nous réagissons, nous les humains. Nous nous mettons parfois en colère, nous nous laissons troubler dans les relations humaines parce que nous prenons tout au premier degré. Jésus n'a pas pris tout au premier degré. Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui a donné la capacité à Jésus de pardonner quelque chose de grave, bien-aimé. Après tout, on va quand même le tuer. On va quand même le crucifier. On l'injurie. Mais Jésus connaissait la puissance du péché. Le péché, c'est quelque chose de... C'est le mal. C'est contrevenir à la loi du Seigneur. Et le péché a des conséquences. Ça produit une ivresse, une sorte d'engourdissement de l'esprit qui empêche la personne de voir les choses clairement. C'est ça la puissance du péché. Je compare souvent le péché à l'alcool. Petit à petit, ça te donne une sorte de logique nouvelle qui est la preuve même que tu es dans l'erreur. J'aime beaucoup cette phrase d'un livre du Code de la route qui dit « La consommation de l'alcool produit une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. » Voilà cette phrase-là que j'ai mémorisée parce que je me suis dit c'est ça la bonne phrase qui explique le péché. Ça produit une sorte de sensation de puissance, une logique nouvelle. Cette logique nouvelle, c'est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Quand tu prends de l'alcool, tu prends, il y a une sensation, voilà, d'invulnérabilité. Tu ne mesures plus les dangers comme il faut. Et bon, tu peux même avoir le courage d'aller te battre contre un lion. Bien sûr, pour te faire manger. Pourquoi? Parce que tu as perdu le contrôle. Mais comment on sait que tu as perdu le contrôle? À cause de cette sensation de puissance. À cause de cette nouvelle logique. Ce qui même te fait croire que tu as une force, c'est ça qui est la preuve que tu as perdu le contrôle. Le péché donne une sorte d'envoûtement. Nous allons lire dans Romains, au chapitre 1er. À partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà ce que nous dit la parole. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La parole nous montre que le péché fait un travail qui t'amène dans des raisonnements qui peuvent paraître logiques, mais en réalité, c'est la preuve qu'il y a une folie qui s'est installée. Et Dieu dit, tout cela, c'est parce que tu as laissé en toi traîner le péché. Tu as laissé le mal travailler. Et ce mal-là commence à te créer des logiques. Et ces logiques vont t'amener à faire des actes qui seront décrit parfois comme horrible, comme abominable. Et c'est ce qu'il explique dans la suite au verset 22. Je recommence. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu et incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. C'est que le péché fait que l'homme tombe très bas. Il commence à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Nous, on voit même des scènes dans certains pays où il y a des rites du genre, quelqu'un est mort, après on suppose qu'il va manger, je ne sais pas où, donc on lui amène la nourriture, des fruits. Le lendemain, revenez, vous allez voir, les voleurs ont déjà mangé ça. Alors, comment l'homme en arrive là? Quelqu'un est mort, il est dans le tombeau, sous la terre, vous lui déposez des fruits, de la nourriture. Dieu dit, voilà la bêtise du péché. C'est-à-dire que le mal, l'homme a refusé Dieu, donc il tombe dans des bêtises, dans des raisonnements. Il y a même, je vis en Martinique, il y a des caches où qui sont censées recevoir une statue de Marie catholique. Et il y a des gens qui viennent, qui déposent l'argent là-bas. Les bandits attendent tranquillement. Vous savez ce qui est rigolo, c'est que le bandit qui lui-même est fou, il dit, mais ces gens-là sont fous quand même. Ils viennent déposer l'argent, mais ils déposent pour moi. Le bandit lui-même qui n'est pas bon, sa tête ne fonctionne déjà pas bien, mais lui-même dit, oh, mais comment ils viennent déposer là? Donc il attend que les jeunes viennent adorer, il dépose l'argent dans le cache. Lui, il attend à 500 mètres avec un télescope, un scope ou bien des jumelles, quoi. Bon, ça y est, ils ont déposé. 45 minutes après, lui aussi, il passe et il s'agenouille, il prend l'argent et met dans sa poche. Et il rigole, il dit, mais les humains sont devenus fous. Parce qu'une statue, qu'est-ce que ça va faire avec l'argent? Tu viens, tu déposes. On vient, on dépose des vêtements, de la nourriture. On a vu même des gens déterrer et enlever les vêtements du mort. Il y en a qu'on enterre avec des costumes qui coûtent très cher. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est mort, on l'enterre avec un costume qui coûte plus cher que les costumes des vivants. Réfléchissez. Pour que les fourmis mangent les costumes. Est-ce que les fourmis ont besoin de costumes, bien aimé? Ça nous montre la bêtise. C'est-à-dire le péché rend fou. Je ne veux pas dire un mot. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me rattraper encore à la fin de la prédication. Pasteur, tu as dit qu'on était bêtes. Non. Bon. Donc je dis, le péché rend fou. Comme c'est le mot qui est écrit dans la Bible, fou, je vais rester avec fou. Ça rend fou. Mais on ne s'en rend pas compte, comme l'alcool. Il y a des gens, quand ils ont pris le hashish, ils croient qu'ils mesurent maintenant 3,50 m. Ils veulent toucher le plafond. C'est parce que ça l'a rendu fou. Mais la personne qui vit ça ne comprend pas, se croit fort. Et le livre du code de la route dit, cette sensation de force-là, de puissance, c'est la preuve qu'il a perdu le contrôle. C'est ça la réalité. C'est pourquoi Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient que qui moi je suis, ils n'oseraient même pas s'approcher à 10 mètres. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons pardonner. Parce que les gens sont devenus fous dans leur péché. Maintenant, c'est vrai qu'on va dire, maintenant, lui, il est bien portant. Mais le mal détruit petit à petit les raisonnements de l'homme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les gens sont innocents? Ils ne sont pas innocents. Ils sont coupables. Mais cependant, c'est un jugement qui appartient à Dieu seul. Dieu seul sait à quel moment la folie a pris le dessus. Donc, Dieu va les juger par rapport au moment où il n'y avait pas encore la folie du péché. Pour dire, mais non, mais là, tu as cédé à tes convoitises, tu as cédé à l'envie du mal en toi, c'est pourquoi tu en es arrivé là. Comme il avait dit à Caïn, le péché est à ta porte. Hein? Toi, domine sur ce péché. Maintenant, quand le péché est à la porte, nous, on ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? On reçoit une certaine folie qui va nous faire commettre de plus grands péchés encore. C'est en ce moment-là que on n'est plus seul, on est aussi associé à la folie que nous-mêmes on a fait entrer. Donc Dieu jugera les humains, non pas tant par rapport aux actes, mais plus par rapport au fait qu'ils ont ouvert la porte de leur cœur à la folie du mal. Donc ils n'ont pas résisté au moment où c'était faible pour dire « Non, ça c'est pas bon ». Ils ont laissé le mal entrer et être entretenu et produire cette folie qui va les faire commettre des plus grands maux, des plus grands péchés. C'est pourquoi, frères, nous devons pardonner. Si cette sœur-là dont j'ai parlé tout à l'heure savait que le coup de fil venait de l'hôpital psychiatrique de quelqu'un qui avait des problèmes dans la tête, même si elle avait demandé une Rolls, elle n'allait pas se déranger. Aujourd'hui, si je vous dis, quelqu'un t'appelle et dit « Monsieur, j'ai besoin d'un immeuble, que tu me donnes un immeuble. » Tu vas dire « Non, là, il y a un problème. » Tu ne vas même pas être perturbé. Mais quand tu entends des requêtes qui semble logique, mais et toi tu es incapable de les assumer. Ça perturbe. On te demande une chose, deux choses, trois choses, quatre choses. Tu dis, mais c'est logique ce qu'on me demande, mais je ne comprends pas comment cette personne puisse me demander ça à moi. Mais c'est quand même logique. Et là, ça te perturbe parce que tu n'as pas toujours tous les moyens et tu ne comprends pas non plus pourquoi c'est toi qu'on choisit pour faire de telles demandes. Mais si tu es au courant que ben, la personne elle est en train de s'amuser, de blaguer, où il y a une certaine folie, bon là, tu dis, ah bon, je comprends, bon, c'est pas grave. C'est ça, nous devons considérer que les gens qui nous font du mal, c'est, il y a une certaine folie aussi qui est derrière, liée au mal, liée au péché. Je vois certaines enquêtes criminelles à la télé, il y a des hommes qui tuent leurs femmes pour récupérer leur police d'assurance, l'argent, l'assurance. Après, rapide enquête, parfois il y a des enquêtes qui durent même que 3 semaines ou 3 mois. Mais le monsieur, il est reconnu coupable, il va faire toute sa vie en prison. Donc il perd la première femme. Et en général, il veut l'épouser une autre en tuant la première. Donc il perd la première, il perd la deuxième. Il perd la police d'assurance et se retrouve en prison. Même les journalistes disaient, mais quand même, nous sommes dans une société où il y a le divorce. Pourquoi ce monsieur n'a pas tout simplement divorcé s'il ne voulait pas de sa femme? C'est la folie. Donc l'homme, dans sa folie de mal, il veut le plus gros lot. J'élimine, je prends une autre, et l'argent avec. Mais il serait, ne serait-ce que sage dans le mal. Il aurait dit non, les policiers sont très forts, je préfère demander le divorce tout simplement. Mais non, quand tu es pris dans un élan de mal, certainement, il voulait satisfaire financièrement la deuxième femme, il est pris dans un élan et on ne réfléchit plus dans cet élan et on commence à faire des choses et c'est comme si on est comme somnambule. Donc on marche, mais ce n'est plus nous. Le péché t'entraîne. Tout ça parce que tu as ouvert la porte un jour dans ta vie. Et le raisonnement te donne des justifications. Oui, mais comme on a vu à la télévision dernièrement, le Chinois qui a écrasé l'enfant. Il avait un minibus. Il écrase un enfant. Après, puisque l'enfant n'est pas mort, il fait marche arrière pour l'écraser comme il faut. Et quand on l'a attrapé, on lui demande, mais pourquoi vous avez écrasé, puisque c'est filmé. Oui, mais s'il était mort, j'allais payer que 11 000, quelque chose comme ça. Mais s'il était vivant, j'allais supporter les frais de son handicap toute ma vie. Alors comprenez quelque chose. Vous voyez ? Où le mal entraîne aujourd'hui les gens. Jusqu'à quel point on en arrive. Le mal, c'est dangereux. Ça commence en petit. Et on ouvre la porte, on dit, c'est logique. Aïe, c'est fini. Lui, dès qu'on lui ouvre la porte, il règne. Je n'ai jamais vu un microbe entrer et dire, bon, cet homme-là est gentil. On ne le tue pas. Bien aimé. Le microbe du sida, il entre ou bien du paludisme? Il entre, il dit, bon, cet homme a fait du bien aux gens, on ne se multiplie pas. Non, le microbe ne connaît pas ces règles-là. Comme quand tu as fait du bien, il entre en toi, il commence à se multiplier pour détruire. Le mal, c'est ça. Donc, il ne faut pas se dire, bon, je vais gérer le mal. Je vais me contenter que de 3% de mal. Ça fait un peu de piment dans la vie. Ah, bien aimé. Le mal, ce n'est pas du piment. C'est un virus qui va se multiplier. Les virus ne font que se multiplier. C'est pourquoi, dès le départ, il faut refuser l'entrée. Dès le départ. Le péché rend fou. C'est pourquoi les gens vont avoir un comportement différent. Moi, je me souviens quand on était jeunes, on avait changé notre façon de marcher. 3 ans après, je me suis rendu compte que ma jambe, une était plus courte que l'autre. J'ai dit, aïe, là, je ne veux pas devenir handicapé pour montrer qui je suis. Je suis quelqu'un. Je suis redevenu normal, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui te pousse à changer de façon de marcher? Tu vas épater qui, bien-aimé? Si on sort un lion là, est-ce que ta façon de marcher va le taper? Quelqu'un avec un fusil, toi tu viens avec ta façon de marcher là, il sort son revolver, ta façon de marcher va faire quoi? Bien-aimé. On changeait, donc voilà, c'est la folie. C'est-à-dire que le mal te fait raisonner autrement. Moi je connais des gens qui disent, ah mais bon, moi, je suis un homme. Hein. Nous, les hommes, bon, une seule femme, ça ne suffit pas, bien-aimé. Et donc, nous sommes quoi? Des poupées? Non, bien-aimé. Soyons sérieux. Le mal fait sortir des raisonnements. Et on commence à justifier les choses. J'ai vu les gens du Hamas, un papa qui avait retrouvé son fils. Il s'embrassait, il pleurait. J'ai retrouvé mon fils, il est sorti de prison. C'était beau à voir. Après quelques instants, on lui posait la question. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, j'irai encore faire des attentats. Oh, bien aimé. Comment concilier de si belles retrouvailles avec le fait d'aller tuer encore des gens? Ça ne colle pas. Le mal ne colle pas avec l'amour, la beauté. Le mal rend fou. C'est ce papa lui-même qui dit qu'on va recommencer. Alors qu'il pleurait que son fils était parti, il ne le voyait plus. Maintenant qu'il est revenu, il veut encore l'envoyer pour se faire emprisonner. Mais quelle contradiction! Le mal enlève l'intelligence. C'est pourquoi beaucoup, dans leur comportement, sont devenus des petits fous. Et ce n'est pas une injure, c'est une réalité. Les raisonnements changent, les logiques changent. Et quand ils nous font du mal, nous devons aussi considérer cet élément-là pour dire, je comprends, il a une logique, il a une façon de raisonner, il a une façon de voir les choses. Je comprends, Seigneur, et je pardonne. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, pour être un chrétien puissant, il faut pardonner aux autres. Pour être un chrétien véritable, il faut savoir pardonner aux autres. C'est comme ça que nous entrons vraiment dans l'appel de Dieu. Comme c'est écrit dans Matthieu 5, c'est ainsi que vous serez appelés fils de Dieu. Parce que vous savez pardonner à ceux qui vous font du mal. Considérons la folie qui entraîne le péché et excusons disons bon, je comprends. Il ne peut que raisonner comme ça parce qu'il est attaché à l'argent. Je comprends, il ne peut que me parler comme ça parce qu'il est attaché à l'orgueil. Voilà, on dit, bon, Seigneur, je pardonne. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un dont le bon sens a été altéré par le péché. Donc, je pardonne. C'est ça que nous devons aussi mettre en nous. Ainsi, nous aurons vraiment une vie ressemblant à celle de Christ qui a pardonné aux gens qui l'ont crucifié. Nous avons l'exemple de Paul. Quand il persécutait les chrétiens, il était l'un des plus grands persécuteurs. Il frappait, il emprisonnait, il a même tenu les habits de ceux qui tuaient Étienne par lapidation. Mais parce qu'il était fou. Lui-même, il le dit, j'étais fou.
J'étais pris par mes raisonnements, pris par mes raisonnements religieux. Et je croyais faire le bien en emprisonnant les chrétiens. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi, j'ai compris ma misère, j'ai compris mon erreur. Bien-aimé, au lieu de se fâcher et de haïr les gens ou de commencer à maudire, parce qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont devenus les champions de malédiction. Ils sont tout le temps là à menacer les païens. Moindre bobo, attention, moi j'ai pris un Dieu vivant. Oh là là, bien-aimé. Il y a même un pasteur qui a dit, mais ces gens-là, si on jeûne 3 jours, ils vont voir. Moi, je dis, mais voilà. Donc, les chrétiens sont devenus des vengeurs. Or, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous sommes là pour aimer et pardonner. Nous devons supporter les injustices puisque notre Seigneur les a supportées. Beaucoup de chrétiens maintenant ont un langage pour maudire, pour souhaiter le mal, en prétendant qu'ils ont un Dieu fort. Non, bien-aimés, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur est clair dans Matthieu 5, nous devons aimer nos ennemis, venir en aide à ceux qui nous persécutent. Il est clair, c'est ainsi qu'on sera appelé fils de Dieu. Il y a une soeur qui m'a parlé d'un pasteur qui en Angleterre, lui, il a même dénigré tous ceux qui pardonnent. Il dit, mais beaucoup de chrétiens prient pour leurs ennemis. Moi, mes ennemis, je leur souhaite la mort. Oh, les gens soutiennent. Bien-aimés. Comment ça? Donc, ce pasteur-là contredit la Bible clairement et les gens soutiennent. La Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Lui dit, non, ceux qui bénissent, c'est des poltrons. Moi, je souhaite la mort de mes ennemis. C'est diabolique, bien-aimé. Nous nous sommes appelés à pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes appelés à pardonner. Nous devons considérer que le péché a rendu ceux qui ont ouvert leur porte à lui, le péché les a rendus un peu fous. Et que beaucoup de choses sont faites dans cet élan de folie. Et donc, pardonnons. Nous lisons Genèse 50. Genèse 50, à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché de tes serviteurs. Le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dire, « Nous voici tes esclaves. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. » Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Nous devons pardonner parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font, dans le sens où ils sont entraînés par une folie pécheresse, mais aussi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, dans le sens où l'Esprit de Dieu les impose aussi. L'Esprit de Dieu les utilise plutôt dans leur méchanceté pour nous faire rentrer dans le plan de Dieu. Judas était déjà méchant. Alors cette méchanceté a été utilisée pour faire entrer Jésus dans le plan de Dieu qui était d'être crucifié. Donc quand Jésus dit « les gens ils savent pas ce qu'ils font », il veut parler de la folie pécheresse, mais il veut parler aussi du fait que ces gens-là sont en train d'accomplir le plan de Dieu sans s'en rendre compte. Alors pourquoi leur en vouloir? Il faut plutôt se tourner vers Dieu, dire « bon, Dieu, voilà où tu m'as mis. » S'il y a quelqu'un avec qui nous devons converser, c'est avec Dieu. Nous ne devons pas prendre les gens comme les instruments de notre malheur. Nous devons considérer que Dieu est en train de les utiliser pour nous amener, nous, à entrer dans son plan à lui. Amen. Joseph a dit, calmez-vous. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a utilisé ça pour produire le bien. En me faisant le mal, vous avez accéléré l'action de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont fait le mal, ce n'était pas le mal? C'était le mal. Mais toi qui es de Dieu, pourquoi Dieu a permis? Puisqu'il est écrit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il a permis parce qu'il veut te faire entrer dans son plan. Ce n'est certainement pas pour que tu souffres. C'est parce que tu dois entrer dans ton plan. C'est ça que tu dois considérer. Tu ne dois jamais considérer que Dieu puisse être vaincu. Si Dieu est ton Dieu, alors les affres, les injustices que tu subis de la part des autres sont des bonnes nouvelles pour te faire entrer dans le plan de Dieu. On doit pardonner à cause de ça. Et Joseph a dit, ne vous inquiétez pas. Et c'est la deuxième fois qu'il leur dit ça. La première fois, il leur a même dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu qui m'a amené ici. Mais il est passé par votre méchanceté, d'accord? Mais c'est lui, il reste souverain. C'est pourquoi je ne peux pas vous en vouloir, parce que Dieu, c'est lui qui m'a amené. Puisque moi, je suis de lui. Bien-aimés, réfléchissons à nous-mêmes au lieu de réfléchir sur les autres. Il y en a qui sont devenus des grands microscopes de moralité pour voir les défauts des autres. Ah, il parle trop. Ah, il est mal habillé. Ah, c'est un avare. Donc, des spécialistes du défaut des autres. Dieu n'a pas besoin des microscopes. Il est lui-même l'esprit de vérité. Il est clair. Il a besoin des lumières. Mais cette lumière vient avec l'amour en même temps. Elle ne vient pas pour condamner. Elle éclaire le mal pour sauver, pour aider, pour sortir les autres du mal. Nous devons passer notre temps à faire la prière suivante. Seigneur, ouvre-leur les yeux qu'ils réalisent que toi seul es la solution. Que toi seul es Dieu, toi seul sauve. Nous ne devons pas passer notre temps à dire, Seigneur, défends-moi, justifie-moi, défends-moi, justifie-moi, frappe mes ennemis, oh là là, bien-aimé. Non, non, non. Nous devons dire, Seigneur, ouvre-leur les yeux, qu'ils réalisent que tu es la grande solution pour tout. C'est ce qu'on doit dire. Joseph savait ça. Il a dit, mais là maintenant je suis premier ministre de Pharaon. Mais c'est parce que vous m'avez vendu. Vous avez voulu me tuer, mais ça m'a amené à devenir premier ministre de Pharaon. Donc c'est en quelque sorte par vous que je le suis devenu. Dieu a transformé le mal en bien. C'est pourquoi, bien-aimé, vous savez, Dieu est souvent inactif dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au lieu de manifester l'amour et de pardonner leurs agresseurs, ils les accusent et en les accusant, ils tombent dans le piège du diable.
Et le Seigneur ne sera jamais serviteur du diable. Le Seigneur, pour qu'il agisse, il faut que nous-mêmes nous soyons à son image. On nous fait du mal, nous on répond par le bien. Romains 12. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Et là, on laisse au Seigneur la capacité d'agir, la possibilité plutôt d'agir. Mais si nous-mêmes nous nous faisons justice, soit par une colère exagérée, soit par la haine, soit par la réaction identique à l'action qu'on a subie, qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes fait justice nous-mêmes et Dieu n'agit plus. Et on se dit, mais oui, mais Dieu, comment il ne fait rien? Mais il ne fait rien parce qu'il ne sait pas être pour qui. Le premier a fait le mal, le deuxième a répondu par le mal. Maintenant, Dieu va être pour qui? Puisque les deux sont en tort. Pour que Dieu soit pour toi, il faut que tu répondes par le bien. C'est là que Dieu peut agir en ta faveur. En répondant par le bien, nous devons aussi en appeler à ce que le Seigneur sauve toujours. Nous ne devons pas chercher la mort des autres, ni leur souffrance. Nous devons en appeler au salut, toujours et toujours. Parce que le Fils de Dieu est mort à la croix pour sauver. Il n'est pas mort à la croix pour condamner les gens. Et donc jusqu'à notre mort, quoi qu'on nous fasse, nous devons toujours en appeler au salut de l'Éternel. Et le Seigneur lui-même fera ce qu'il fera, ce qu'il voudra. Il triera entre sauver et juger. Ça, c'est à lui qu'appartiennent ces choses-là. Nous, nous sommes des instruments de grâce. Joseph a dit, je pardonne. De toute façon, je pense que vous ne m'avez même pas fait du mal. Donc, c'est ce qui est beau. Joseph, c'est une façon de leur dire, mais en quelque sorte, vous ne m'avez pas fait du mal, puisque vous voyez qu'à cause de vos mauvaises actions, tout un peuple a été sauvé. C'est-à-dire, j'ai sauvé l'Égypte et je vous ai sauvé vous aussi. À cause de vos mauvaises actions. Finalement, lorsqu'on regarde bien, avec la lumière de la parole du Saint-Esprit, on se rend compte que les déconvenus, les déboires, les difficultés subies par la méchanceté des autres ou par leur logique pécheresse, finalement, quand on regarde bien, on se dit, mais finalement, ça m'a aidé plus tôt, ça m'a fait grandir, ça m'a donné telle opportunité. Joseph est devenu pratiquement roi à cause de cela. Daniel, lorsqu'il est sorti de la fosse aux lions, mais c'est là que Darius l'a respecté et a éliminé ses adversaires. Mais Daniel, lorsque la loi est sortie, comme quoi il fallait plus prier un autre Dieu que Darius, Daniel pouvait aller voir Darius pour lui dire, écoute, roi, c'est un piège qu'on a fait contre moi. C'est un complot parce que ces gens-là veulent m'éloigner de toi. Ces gens-là sont des mauvais. Daniel n'a pas fait ça. C'est ça la troisième étape de notre prédication. Lorsque vous êtes mis sous pression, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous subissez des injustices, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans le plan de Dieu. Réfléchir au plan de Dieu pour vous. C'est en ce moment-là. Dites-vous, Dieu est en train d'accélérer le plan de Dieu puisque vous-même, vous ne l'avez pas encore compris. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qui est dit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Eh bien, les disciples, quand ils ont reçu la puissance, ils ont fait une bonne église à Jérusalem. Ils mangeaient ensemble, ils allaient tout le temps prier. Maintenant, on inverse les chiffres. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er. Qu'est-ce qui se passe? Une grande persécution contre les chrétiens. Et ça a conduit à quoi? À ce que Philippe aille à Samarie. C'est là qu'il a touché toute la ville. Les gens sont convertis en masse. Et d'autres sont partis plus loin encore à cause de cette persécution. Donc vous voyez que Dieu avait donné un plan. Jérusalem, Samarie et puis le reste. Mais quand il a donné la puissance, les gens ont oublié le plan de Dieu. Ils sont restés qu'à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, je vais les mettre des pics. Ils vont se réveiller. Allez, persécution. Finalement, la persécution en fait quoi? Ça a permis qu'ils entrent dans le plan de Dieu. Et donc, réfléchissons. Dès qu'il y a persécution, injustice, mauvaise nouvelle, on dit, je dois entrer dans le plan de Dieu. M'y accrocher et davantage avoir le caractère et la nature de Dieu. Davantage pardonner, davantage aimer. Parce que le but du diable, ce n'est pas de... Le but réel du diable, ce n'est pas de te priver d'argent. Ce n'est pas de te priver de ton corps en te tuant. Le but réel du diable, c'est faire que tu ne sois plus de la nature de Dieu. Que tu commences à injurier, tu commences à maudire, tu commences à faire des coups bas aussi. Comme tout le monde, comme ça, tu es à lui. C'est ça son but. Il veut te posséder, il veut que tu lui appartiennes. Et donc, quand il y a une pression, il y a des attaques, il y a tout ça, il faut se dire... C'est le moment de ressembler davantage à Jésus. On veut m'entraîner à ne plus lui ressembler. C'est le moment d'entrer dans le plan de Dieu. Et la première porte, c'est quoi? C'est le pardon. On dit, je pardonne et j'entre dans le plan de Dieu. Que je sois attentif. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi à travers cette persécution? Il ne faut plus considérer les auteurs comme des problèmes. Il faut plutôt se concentrer sur Dieu lui-même. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de m'introduire dans ton plan. Amen. Bien-aimés, combien de gens n'ont-ils pas été transformés à cause des événements difficiles de la vie? Je connais beaucoup de pasteurs qui ont transformé leur église en église familiale. Depuis, à cause des déceptions. Bon, un tel ancien a trahi, un tel diacre a trahi. Bon, dorénavant, il n'y a que moi et ma femme. Donc, si je ne suis pas là, c'est ma femme qui dirige. Voilà, c'est devenu une église familiale. Pourquoi? Ce n'était pas son idée avant. Mais les difficultés de la vie, les déceptions, l'ont amené à devenir lui-même pécheur. Non, on ne doit pas céder, bien-aimé. Quelles que soient les déceptions, les difficultés de la vie, nous devons rester bons. Et rempli d'amour. Nous ne devons pas changer la Bible parce que on subit des déboires, on subit des difficultés. Nous ne devons pas corrompre parce que tout le monde corrompt. Non. Nous devons rester purs. Il y a des gens qui vont dire, ah, lui avec sa pureté, il va toujours se promener à pied. Ce n'est pas grave. Nous préférons être à pied, pauvres, dans la volonté de Dieu. Nous savons qu'il y a des grandes couronnes qui nous attendent au ciel. Nous ne bossons pas pour la terre, nous bossons pour le ciel. Et nous refusons que le mal produit par les autres nous rende mauvais. Nous voulons au contraire que ça nous rende plus bon qu'avant. Parce qu'il faut beaucoup de bonté pour supporter le mal. Donc le mal est une bonne chose parce que ça nous amène à avoir beaucoup plus de bonté. Donc quand on subit le mal, pour nous, le mal, ce n'est pas une bonne chose, mais pour nous, ça se transforme en une bonne chose parce que ça nous permet d'être plus bon qu'avant. Plus bon qu'avant. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi s'acharner sur les gens qui t'ont fait du mal? Pourquoi s'acharner? Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est peut-être que toi, Dieu, c'est toi que Dieu a choisi pour être la porte de salut pour eux. En priant pour eux. On n'a pas dit forcément. Les gens vont dire, mais il y a des gens qui ne veulent pas changer, on leur a déjà parlé. Oui, mais tu peux continuer à prier quand même. Tu peux continuer à avoir des bonnes pensées pour cette personne quand même. Tu peux continuer à supporter aussi. Et en supportant, en aimant toujours, c'est là que le Seigneur va agir pour changer les personnes. Et quand tu iras au ciel, tu seras étonné que Dieu te présente la personne que tu devais détester, mais toi tu l'as aimé. Il dit, mais voilà, à cause de ton cœur, moi je l'ai sauvé plus tard. Ah oui, tu sautes de joie au ciel. Parce qu'au ciel, tu n'auras même pas la pensée d'haïr quelqu'un. Donc tu te diras, mais tiens, heureusement que je n'ai pas répondu au mal par le mal. J'ai toujours aimé. Voilà que je retrouve maintenant, c'est devenu mon frère. Pendant qu'Étienne était lapidé, il a dit, Père, pardonne-leur. On a vu que Saul est devenu Paul. On peut considérer en tant qu'humain, par supposition, que Dieu a vu le bon cœur d'Étienne. Pendant qu'il est lapidé, il pardonne. Il dit même, ne leur tiens pas compte de ce péché. Vous voyez à quel point, jusqu'à quel niveau Étienne va. Donc il dit, mais ne considère pas ce qu'ils me font comme étant un mal. Il dit ça à Dieu. Donc ne tiens pas compte de ce qui m'arrive là. J'aime tellement ressembler à de telles personnes. Donc il dit à Dieu, Dieu ne considère même pas ce qu'ils me font là comme étant un mal. Quand Dieu voit de tels cœurs, il dit, ah non, je ne peux qu'agir. Il a suscité Paul. Et Paul a fait des ravages dans les camps de l'ennemi. Amen. Parce qu'il y avait le cœur d'Étienne qui était disposé à vivre l'amour de Dieu. Ayons des cœurs disposés à vivre l'amour de Dieu. Sans compromis. Le Seigneur a dit qu'on soit prudent. Il n'y a pas de problème. Nous allons rester prudents, mais tout en ayant l'amour. Tout en souhaitant le bien de tout le monde. Tout en souhaitant que Dieu sauve tout le monde. Et tout en supportant avec beaucoup de patience. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur a dit dans Job 7, le sort de l'homme sur la terre, c'est le parcours du soldat. C'est ça, bien-aimé. Un soldat, au début de la guerre, a 8-10 amis dans le bataillon. Il rigole le soir, il mange le soir. Et à la fin de la guerre, il n'y a plus que 2. Mais il a fait la guerre pendant 5 ans en voyant un partir, un autre partir. Mais il a continué la marche. Notre marche sur la terre, c'est le parcours du combattant. Nous allons voir beaucoup d'événements, mais ne nous arrêtons pas. Continuons à marcher. Et quel est l'énergie? Qu'est-ce qui va nous communiquer cette énergie? Le pardon. En disant, bon, Seigneur, ne considère pas ça comme difficulté. Comment fait? Ne considère pas ça comme un problème. J'ai compris que je dois entrer dans ton plan. C'est moi le problème, Seigneur. Ce n'est pas ceux qui me font du mal, mais c'est moi le problème. C'est moi que tu cherches. Eh bien, je réponds oui. Je veux être plus bon qu'avant. Je veux être plus patient qu'avant. Voilà. Je ne dis pas manque de patience. Il y en a qui vont sortir le verset d'Élisée. Ah, Élisée a maudit les enfants, les ours les ont mangés. Mais non, bien-aimé. Jean 1, 17 nous dit ceci. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Nous n'allons pas changer la parole. C'est ça la vérité, bien-aimé. Que personne ne nous trompe. Un jour, la terre passera. Un jour, tout ce qu'on voit passera. Nous serons face à deux mondes d'éternité. Le monde du diable dans le feu et le monde de Dieu au paradis. Alors construisons notre avenir pour le monde de Dieu au paradis. Amen. Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on a vu la suite. L'un des brigands à la croix s'est converti. Bien-aimé. Ce n'est pas un encouragement pour que ceux qui sont dans le mal continuent. Non. Au contraire, c'est un avertissement pour ceux qui sont dans le mal. Attention, le mal produit une folie qui va t'amener encore plus loin. Fais attention. Arrête-toi maintenant. Parce que tu risques de devenir un instrument dans ta méchanceté. Tu vas devenir un instrument pour faire entrer les gens dans le plan de Dieu, alors que toi, tu vas dans le plan toujours du diable. Attention. Ne provoquons pas Dieu. Arrêtons de faire le mal et faisons seulement le bien. Et lorsqu'on nous fait du mal, pardonnons parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. soit à cause de la folie de la péché, du péché, soit parce que Dieu peut utiliser ceux qui ont de mauvaises intentions pour faire entrer ses enfants dans le plan de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Là, nous avons appris la mauvaise nouvelle que François Hollande compte légaliser le mariage homosexuel. Il ne faut pas que cette mauvaise nouvelle crée une haine ou quoi que ce soit. Il faut qu'on prie. On dit, Seigneur, nous annulons ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que pour que François Hollande se convertisse et qu'il finisse par se marier quand même. Voilà, bien-aimé. C'est ça la vérité. Nous devons rester tranquilles. Ésaïe 35 dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quand tu es dans la tranquillité et le repos, Dieu peut te parler pour te dire, regarde, ma volonté, c'est d'aimer. Regarde, à travers ceci, c'était pour te pousser à prier pour la France. À travers cela, c'était pour te pousser à prier pour ta famille. Je veux utiliser ton cœur pour sauver la personne qui te fait du mal. Voilà. Comme il est passé par le Seigneur pour nous sauver, nous, les ennemis de Dieu. Il est passé par Jésus, le cœur de Jésus, pour nous sauver, nous, les ennemis de Dieu. Il est passé par Étienne pour sauver Paul. Eh bien, il passera par nous aussi pour sauver ceux qui nous persécutent. On doit remplir notre tâche d'être des intercesseurs pour ceux qui nous font du mal. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Et autre chose encore prévue à travers la persécution, comme on a vu dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Donc Dieu a utilisé la persécution pour faire entrer les chrétiens dans son plan. Et c'est ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Nous devons juste nous assurer que ce que nous subissons n'est pas la conséquence de nos propres erreurs. Si on est sûr que ce n'est pas la conséquence de nos propres erreurs, considérons cela dans l'esprit de Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et si c'est là que ce que nous subissons est la conséquence de nos erreurs, demandons pardon, repentons-nous et le Seigneur va nous ôter la souffrance et nous faire prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Nous allons prier et pardonner à tous ceux que nous estimons avoir été un obstacle pour nous, un blocage pour nous, une occasion de chute pour nous. Reprenons-nous, ressaisissons-nous, bien-aimés. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous comporter comme les gens du monde en répondant au mal par le mal, mais en répondant au mal par le bien. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu vois que nous avons ces 3 jours de séminaire, d'adoration, de fête en ton honneur. Nous ne voulons pas entrer dans ces 3 jours avec des blocages dans nos cœurs. Nous ne voulons pas entrer dans ces 3 jours de fête avec des complications. Nous voulons nous réconcilier avec toute personne dans la mesure du possible, Seigneur. Et nous voulons, du moins dans nos cœurs, avoir des bonnes dispositions pour tout humain sur la terre, Seigneur de gloire. Et nous venons considérer, Seigneur, que ce que nous avons subi ou nous subissons fait partie de ton travail pour nous faire entrer dans ton plan. C'est pourquoi nous disons clairement, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu amènes, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, dans les administrations, là où nous travaillons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le quartier, les voisins, Seigneur, tous ceux qui peuvent avoir été des occasions de blocage pour nous. Seigneur, nous prions que tu les amènes à la conversion, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas la mort du méchant. Au contraire, nous voulons qu'il vive pour se repentir et être sauvé afin qu'on se retrouve au ciel. Nous ne voulons pas servir au dessein du diable qui est la division, la haine, l'opposition humaine. Nous voulons obéir à ce que Paul a dit. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des esprits. C'est pourquoi nous ne voulons plus considérer, nous ne voulons pas du tout considérer les humains comme des ennemis. Nous voulons nous concentrer sur les esprits qui sont derrière et les combattre, ces esprits-là, et prier pour le salut des humains, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, remplisse nos cœurs, que nous réalisions la grandeur de cet amour et que nous ayons toujours un comportement de paix, que ce soit envers le mari, que ce soit envers la femme, envers les enfants, envers les parents, que nous ayons un comportement d'amour, de paix qui construit sans se compromettre, sans quitter la prudence, mais que nous ayons toujours de la bienveillance pour notre prochain. Béni soit ton nom, Seigneur. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même dans le noir, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous demande Jésus. Profonde, il sauve les perdus. Si fort, si tendre, est un amour sans fin. Quel est le chant que faut entendre les anges et les saints.
Versons de l'encre
dans le ciel,
dans les ondes, changer le ciel
en parchemin.
Tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire à tout l'amour du Père ferait ta vie. Et remplirai la place entière sur ces divins boulots.
Je voudrais expliquer ce couplet. On dit verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Donc si nous considérons tout cet espace comme une sorte de cahier, de livre blanc, vous connaissez les parchemins, les rouleaux de parchemin, transformer tout ça, tout le ciel, tout l'air, donc toute cette partie-là, entre la terre et les nuages, et l'espace, transformer ça en parchemin, et on vous donne comme encre les océans, les fleuves, les mers. Alors, l'amour de Dieu est tellement grand que si tu dois écrire cet amour-là sur tous ces parchemins, ça va finir tout l'encre des océans, bien-aimés. C'est tellement grand l'amour de Dieu. Nous ne devons pas nous tromper, bien-aimés, de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4:8. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Ne nous trompons pas de Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui est là pour nous venger de nos ennemis, pour des petits bobos. Non, bien-aimés. Dieu jugera l'humanité une fois pour toutes, mais c'est à la fin du monde. Pour le moment, il veut sauver. Entrons dans cet esprit-là. et que le monde.
Versons de l'encre encore.
Dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire au tout l'amour du Père ferait tarir les eaux. La place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, ses forces étendues,
amen,
est un amour,
est un amour. Sans fin.
Quel est le chant que font entendre les anges et